Chapitre 44. Le 21 août 2016. 12h.
Tu as manqué le lever de soleil, Clotilde. Tu étais plus matinale lorsque tu avais 15 ans.
Cassanou se tenait assis, adossé à la croix de bois, écrasé par l'ombre du monument haut de 7 mètres planté au sommet du Capo di Abetta. On aurait dit un pèlerin qui a porté sa croix jusqu'au toit du monde pour la planter, creuser son trou devant et s'y enterrer. Clotilde ne releva pas la réflexion de son grand-père. Elle venait d'effectuer 4 heures d'ascension et reprenait son souffle, stupéfaite que le vieil homme, à presque 90 ans, ait pu grimper jusque-là, alors qu'elle terminait la montée complètement épuisée. Épuisée et énervée. Tout au long de sa montée en solitaire, malgré la beauté à couper le souffle du paysage, elle avait été incapable de faire le vide, de savourer l'instant, le vent, les parfums de lentisques, de cédra ou de figues sauvages. Bien au contraire. Les questions s'étaient bousculées dans sa tête, et toutes se résumaient en une seule. Sa mère l'attendait-elle hier soir dans la cabane de berger? Elle regrettait de n'avoir pas osé aller frapper à la porte après que Franck avait surgi. Elle lui en voulait pour cela aussi, avoir cassé la magie. Elle n'avait quasiment pas dormi de la nuit. Elle avait réfléchi, puisant dans ses souvenirs, dans l'espoir de trouver une réponse à cette question qui l'obsédait. Comment sa mère pourrait-elle être vivante? En faisant défiler dans sa tête le film du 23 août 1989, il n'existait que 3 possibilités. Sa mère n'était pas dans la Fuego. Sauf que sa mère était assise sur le fauteuil passager avec Nicolas assis à l'arrière et papa derrière le volant. Elle l'avait vu avant de monter dans la voiture, après avoir démarré pendant le trajet. Ils s'étaient souri, parlé. Il n'y avait aucun doute possible. Ils étaient partis tous les 4 d'Arcanou. Sa mère était descendue de la Fuego avant l'accident. Sauf que la Fuego ne s'était pas arrêtée, avait à peine ralenti dans la descente de la bergerie. Clotilde était certaine de ne pas s'être endormie pendant le trajet avant la Petra Coda. D'ailleurs, il n'y avait que quelques kilomètres de distance et sa mère était toujours dans la voiture quand la Fuego avait quitté la route avant de s'écraser. Papa lui avait pris la main. Sa mère avait survécu à l'accident. C'était la seule hypothèse crédible. Même si la Fuego avait effectué 3 tonneaux tuants à chaque fois, même si elle avait vu les 3 corps déchiquetés, exposés puis enveloppés dans des sacs plastiques avant d'être emportés. Elle était en état de choc. Peut-être sa mère était-elle encore vivante? Peut-être l'urgentiste avait-il accompli un miracle? Mais alors pourquoi annoncer son décès? Quelle raison pouvait justifier qu'un service de réanimation sauve un patient sans que personne n'en sache rien? Pas même sa fille. Pour quelle raison faire d'elle une orpheline? Pour protéger sa mère? Parce que c'est elle qu'on avait voulu tuer? Elle délirait. Elle ne savait plus à qui se fier. Cherbonne disait-il la vérité à propos de son frère Nicolas et de l'accident de ses parents? Franck, son mari, jouait-il un invraisemblable double jeu? Nathalie avait-il vraiment croisé le fantôme de sa mère? Que savait son grand-père Cassanou? Qui tirait les ficelles depuis le début? Pratiquement toutes les minutes, telle une ado traînée contre son gré en randonnée par ses parents, elle s'était accrochée à son téléphone portable. Elle avait passé une bonne partie de la montée au téléphone, cherchant à joindre 3 interlocuteurs. Pour avoir des nouvelles de Franck et Valou, d'abord. En vain. Elle n'avait obtenu aucune réponse. Seulement un répondeur muet qui se laissait insulter sans broncher. Elle était parvenue à contacter Natale et ensuite, au début de sa montée. Elle avait insisté pour qu'il la rejoigne, l'accompagne en haut du Capo di Abetta, mais le pêcheur de rêve avait décliné l'escapade. « Impossible, Clo. Impossible avant ce soir, je travaille au magasin toute la journée. Mais Aurélia est de garde à la clinique cette nuit, alors oui, Clotilde, ce soir si tu peux, si tu veux. Ok, à ce soir, mon chevalier. » Clotilde avait eu surtout l'impression que même après toutes ces années, il ne voulait pas croiser Cassanou. Pas trop montagnard, son pirate. Et peut-être même un peu froussard. Il n'y avait pourtant pas de quoi. Papé Cassanou semblait bien inoffensif. Adossé à l'immense poutre, il donnait l'impression de ne jamais pouvoir se remettre sur ses pieds après cette dernière et folle ascension. Ils soufflaient tous les deux, comme incapables de prononcer le moindre mot. Vers le milieu de l'ascension, Clotilde avait passé son dernier coup de fil, le plus inattendu des 3. Et cette fois, son interlocuteur lui avait répondu au bout de 2 sonneries, dans un français presque impeccable, avec un accent allemand à peine plus prononcé que celui de son père.
Clotilde Idrissi ? Mein Gott, c'est si étrange de vous parler après tout ce temps.
Clotilde fut étonnée. Hermann Schreiber n'avait pas l'air surpris de son appel.
Mon père m'a téléphoné hier, précisa l'Allemand, après votre visite. On a un peu reparlé de ce fameux été 89.
Il la vouvoyait. Sa voix possédait un ton autoritaire assez désagréable. Clotilde se demanda si Hermann se souvenait de son surnom, le Cyclope. Elle repoussa une envie folle de le tutoyer et de lui balancer ce sobriquet.
Vous vous souvenez de cet été ?
Se contenta-t-elle de demander.
Oui, de tous les noms, de tous les prénoms, même des visages. Ce fut un été un peu traumatisant tout de même, non ? Pour nous tous.
Surtout pour moi, connard. Elle décida d'interpeller Hermann sans détour en expliquant la raison de son coup de téléphone et en résumant en quelques mots les révélations de Cerbone et Spinello. Son frère Nicolas, se plantant avec la voiture quelques heures avant l'accident, endommageant sans le savoir les rotules et les biellettes de direction. Hermann eut l'air étonné, comme s'il n'y croyait pas. Puis, après un temps de réflexion, sa voix se fit presque solennelle.
C'est nous qui aurions dû mourir alors, tous les cinq, Nicolas, Maria Chiara, Aurelia, Cerbone et moi. On devait tous monter dans la voiture de vos parents à minuit pour aller jusqu'à cette boîte de nuit avec votre frère au volant.
Il sembla méditer un long moment avant de continuer.
Oui, ce que vous me racontez change beaucoup de choses. C'est même étrange après tout ce temps. C'est un peu comme rater un avion qui va se crasher.
Il prit encore le temps de la réflexion.
Oui, c'est nous, tous les cinq, qui aurions dû finir dans le ravin. Si je suis vivant, cela ne tient qu'à une question, Clotilde, une question dont vous seul avez la réponse. Pourquoi votre père a-t-il changé d'avis ce soir-là? Pourquoi a-t-il décidé de prendre la voiture avec sa famille et d'aller à ce concert de polyphonie?
Je ne sais pas.
Rien n'arrive par hasard. Si vous puisez dans vos souvenirs, vous trouverez obligatoirement une explication.
Le ton d'Hermann était redevenu cassant. C'était celui d'un type habitué à être obéi. Clotilde devinait que depuis 27 ans, il n'avait dû avoir pour seule préoccupation que de faire subir aux autres les humiliations qu'il avait subies pendant son adolescence. Il avait pourtant raison. Seule importait cette question clé. Pourquoi son père avait-il modifié le programme du soir du 23 août ? Elle n'avait aucune explication. Le puits de sa mémoire était désespérément sec. Peut-être la solution se trouvait-elle inscrite dans son journal intime de l'été 89. Ce cahier qu'elle avait noirci jusqu'aux dernières secondes passées sur le banc d'Arcanou. Peut-être avait-elle protégé ses souvenirs en les cachant dans ce carnet. Peut-être, à l'inverse, ne contenait-il rien. Ou de pures inventions, celles d'une ado menteuse, jalouse et frustrée. Celle qu'elle était.
Ce ne sont pas les pistes qui doivent vous manquer, continuait Hermann Schreiber. C'est compliqué, la Corse, la terre et la famille, la vie et la mort, l'argent et le pouvoir. Mais avant tout, Clotilde, êtes-vous certaine que l'on puisse faire confiance à ce Cerbone Spinello? Avez-vous retrouvé d'autres témoins, parmi les cinq? Ils doivent tous être encore vivants.
À l'exception de Nicolas, pensa Clotilde. Le cyclope était resté l'empereur du tact. Elle répliqua du tac au tac.
J'ai revu Maria Chiara.
Hermann explosa d'un rire franc.
Ah, Maria Chiara! J'étais sacrément accro à elle. À l'époque, je croyais que citer Goethe et jouer Liszt au violon suffisait pour séduire une fille. Au fond, je devrais la remercier. C'est pour plaire à des filles comme elle que j'ai tant bossé.
Il laissa rebondir quelques derniers éclats de rire.
À des filles aussi belles qu'elle, je veux dire. Ma femme lui ressemble, en blonde. Sauf qu'elle est soprano à l'Opéra de Cologne, pas chanteuse dans des émissions de télé-réalité.
Clotilde eut d'un coup envie de couper court à la conversation. Salir tout ce qu'on aimait à l'adolescence, était-ce une malédiction?
Tant pis alors, Hermann, si vous n'avez aucune autre piste. Si, peut-être. Retournez voir mon père. Il ne s'est pas contenté de collectionner les photos toutes ces années. Il discutait avec tout le monde dans le camping. Je crois qu'il avait construit une sorte de théorie. Quelque chose qui le troublait depuis l'accident de vos parents. Un truc qui clochait. Mais il n'en parlait qu'à ma mère, Anke. Pas même à moi.
Clotilde n'osa pas avouer qu'elle n'avait aucune nouvelle de Jakob Schreiber depuis hier. Elle se sentit plus lâche encore lorsqu'Hermann insista. « Pour tout vous dire, je suis parfois un peu inquiet pour mon père. Alors que notre villa croate sur l'île de Pag lui est grande ouverte avec sa piscine, son fils et ses petits-enfants, cette tête de mule continue de préférer passer ses vacances en Corse seule dans son mobile home. » L'assurance hautaine du cyclope agaça une nouvelle fois Clotilde. Qui dans son entourage pouvait imaginer l'ado timide et timoré qu'il avait été? Hermann avait fait le vide, comme tout le monde. Il avait réécrit l'histoire de sa vie. Clotilde eut envie de lui balancer son surnom, rien que pour lui rappeler le cher visage de son passé. L'Allemand ne lui en laissa pas le temps. « Retournez voir mon père !» répéta-t-il. Avec son foutu appareil photo, il s'est amusé toute sa vie à épingler le passé comme d'autres épinglent les papillons. Une sorte d'espion avec son zoom braqué sur tout ce qui pouvait lui sembler insolite. Son objectif, c'était son œil unique, même si pour vous, c'était moi le cyclope.